Oui, bonjour. Ici Psycho Balado en ce vendredi 16 juin 2023. Et je suis Yves Dalpé, psychologue, et je vous lis cet épisode-ci consistera en la lecture de la dernière partie du livre qui s'intitule La gentillesse dans le couple, que j'ai co-écrit avec Joanne Côté. Alors, vous vous rappellerez, si vous avez écouté le dernier épisode, que nous parlions des champions de la gentillesse dans le couple, et nous n'avions pas tout à fait fini cette partie, ce chapitre-là. Alors donc, j'enfile avec où nous étions rendus à ce moment-là. Une autre façon de découvrir les maîtres de la gentillesse dans le couple, c'est de se référer aux 5 grands facteurs de personnalité qu'on appelle the Big Five. Depuis le milieu du 20e siècle, différents chercheurs ont établi que 5 grands facteurs de personnalité donnaient un bon aperçu des personnalités globales, c'est-à-dire un bon aperçu de la personnalité globale d'une personne. Il s'agit des 5 spectres qu'on peut détecter sur tout le monde en évaluant le degré qui s'applique à chaque personne. Ces 5 grands traits de personnalité sont les suivants. L'ouverture, virgule, la conscienciosité, virgule, l'extraversion, virgule, l'amabilité et le névrosisme. Ces 5 dimensions constituent un minimum pour décrire le caractère d'une personne. Chacun de nous se situe quelque part à un degré spécifique. Remarquez que ces caractéristiques de base de la personnalité ont été identifiées par l'observation clinique et par l'analyse statistique. Elles ne sont pas simplement issues de théories. Quand même intéressant de savoir ça. Bon, alors commençons avec l'ouverture. L'ouverture caractérise les personnes qui aiment apprendre de nouvelles choses et qui apprécient les nouvelles expériences. Ceux qui manquent d'ouverture sont conventionnels, traditionnels et n'apprécient pas les choses étrangères ni les activités intellectuelles. Leurs intérêts sont restreints et communs. Excusez-moi. Ah, ben, c'est une drôle de phrase. Leurs intérêts sont restreints et communs. Ils préfèrent le simple, le direct et l'évident plutôt que le complexe, l'ambigu et ce qui est subtil. Au contraire, plus la personne penche du côté de l'ouverture dans ce spectre, plus elle a un caractère non conventionnel, créatif, intellectuel, curieux, imaginatif. Plus cette personne est individualiste et cultivée, plus elle est sensible à la beauté, plus elle est consciente de ses sentiments et plus elle a une bonne santé mentale. Or, ce trait de caractère engendre des retombées positives sur la vie amoureuse. Les individus ayant ce trait de l'ouverture ont en effet une sexualité libérale et peu stéréotypée. Ils ont une meilleure satisfaction conjugale aussi. Ils ont une plus grande réceptivité aux sentiments. Ils manifestent un désir soutenu de comprendre leurs émotions et celles de leurs conjoints. Et ils ont aussi une forte capacité d'intimité. Voilà donc des gens équipés pour de la gentillesse en amour. Si on regarde maintenant la conscienciosité, ce terme signifie la propension à être consciencieux. Ça s'applique aux personnes qui ont un haut degré de conscience, qui sont fiables, ponctuelles, organisées, méthodiques et rigoureuses. Ceux qui cotent faiblement à ce trait de personnalité sont plus enjoués et spontanés. Par contre, Ils sont impulsifs, distraits, désordonnés, désorganisés, peu motivés au travail et au devoir, plus enclins à l'inachèvement et à l'inexactitude. Ils manquent d'ambition, ne sont pas fiables et ne respectent pas les limites des autres. À l'extrême, on retrouve des personnes négligentes, insouciantes, indisciplinées et rebelles. Au contraire, plus une personne est consciencieuse, plus elle est bien organisée, travaillante, efficace et ordonnée. Le danger, toutefois, c'est qu'elle soit workaholic et qu'elle tombe dans le contrôle excessif et le perfectionnisme. On perçoit alors ces personnes comme ternes et ennuyeuses, mais elles évitent les ennuis et réussissent avec brio dans la vie. L'entourage perçoit généralement ces personnes comme intelligentes et fiables. Ce sont des employés appréciés. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'un couple composé de conjoints situés aux deux extrêmes de ce pôle de la conscienciosité forme une combinaison explosive. Ces deux personnes s'engagent dans des conflits répétitifs et stéréotypés de façon chronique. L'un a beau avoir un beau caractère, l'autre le tire vers le bas. Troisième caractéristique maintenant des Big Five, le pôle extraversion-introversion. Les extravertis puisent leur énergie dans l'interaction avec les autres, tandis que les introvertis la puisent au fond d'eux-mêmes. L'introverti est réservé, calme, effacé, froid, indifférent, distant, passif, monotone, vaguement déprimé. Il est moins dépendant de la vie sociale, mais il n'est pas asocial. C'est qu'il a moins besoin de stimulation et préfère la solitude. Il est moins exubérant et son énergie est moins élevée que la moyenne des gens. Au contraire, plus quelqu'un se situe au pôle de l'extraversion, plus il est vif, sociable, bavard, sûr de lui, joyeux, enthousiaste, chaleureux, énergique. Il aime être avec des gens et attirer l'attention en groupe. Il est plein d'énergie, il est tourné vers l'action, il entretient des projets exaltants, il aime les émotions fortes, il s'affirme et il est dominant. Il ressent souvent des émotions positives et, comme le rapporte Sabourin et Lefebvre en 2008, leur satisfaction conjugale est élevée. Les extravertis semblent donc plus aptes au bonheur amoureux que les introvertis. Maintenant, est-ce que la colère reste collée à vous quand vous tombez dans cet état d'âme? Autrement dit, éprouvez-vous beaucoup de difficultés à en revenir après une dispute avec votre conjoint? Ou encore, êtes-vous sujet à des émotions négatives persistantes? Si oui, vous souffrez peut-être de névrosisme, autre trait de personnalité des Big Five. Le névrosisme réfère à la stabilité émotionnelle d'une personne et à son degré d'émotion négative vécue. Un haut degré de névrosisme signifie que la personne est sujette à une instabilité émotionnelle et à des émotions négatives. On retrouve ici les inquiets, les anxieux, les dépressifs, les complexés, les vulnérables au stress, les disposés aux émotions négatives. Ils éprouvent facilement de la colère et sont émotionnellement réactifs. Ils s'émeuvent plus que la moyenne face à des événements qui affectent peu la plupart des gens. Ils ressentent des situations ordinaires comme menaçantes et des situations mineures comme difficiles. Leur réaction négative dure plus longtemps en plus. Ils sont de mauvaise humeur plus fréquemment. Leurs émotions peuvent entraver leur capacité à raisonner, à prendre des décisions et à faire face au stress. À l'opposé, moins la personne est névrosée, plus elle est calme, stable, sereine. Elle est moins angoissée. Elle surmonte facilement la colère et le stress et la gêne. Elle éprouve rarement une humeur négative de manière persistante. Elle peut être toutefois insouciante et trop encline à sous-estimer les menaces de l'environnement. D'après nous, plus une personne est sujette ainsi au mal de vivre, plus elle accuse l'entourage d'être la source de ses tourments. Le conjoint est tout indiqué comme porte-malheur. La satisfaction du couple en prend pour son rhume. De fait, les recherches sont nombreuses pour démontrer que les personnes qui ont un haut niveau de névrosisme sont plus insatisfaites de leur relation et qu'elles engendrent de l'insatisfaction chez leur conjoint. À ce sujet, voir Bouchard et autres en 2017. Les névrosés réagissent plus rapidement et plus intensément aux mésententes conjugales en devenant tristes, colériques ou angoissés de façon plus durable, ce qui affecte la satisfaction conjugale. Ainsi, le névrosisme est une menace persistante à la satisfaction conjugale. Il affecte aussi la satisfaction sexuelle. On pourrait penser que l'absence de névrosisme facilite la relation amoureuse et la gentillesse. Cependant, des recherches suggèrent qu'un trop faible névrosisme induit un manque de réactivité émotionnelle et d'empathie envers les émotions de l'autre. C'est comme si, dans la vie, il fallait souffrir au moins un peu pour être sensible aux autres. Dans les caractéristiques de personnalité présentées jusqu'ici, on peut déduire que la gentillesse est subjective. Ce qui plaît à une personne peut être désagréable pour son conjoint. Ainsi, un extraverti plein de fougue peut suggérer des activités sportives trop intenses à sa conjointe introvertie qui le trouvera harcelant avec ses suggestions incessantes. Un névrosé sera accablé par l'insouciance de son amoureuse non névrosée qui est tellement de bonne humeur qu'elle n'est pas à son diapason émotionnel. Excusez, c'est pas intéressant pour les auditeurs quand ça arrive. Alors, la femme consciencieuse sera exaspérée par son mari désorganisé qui prend la vie à la légère. Et la femme traditionnelle qui manque d'ouverture sera agacée par le côté créatif et aventureux de son mari curieux qui lui propose régulièrement trop de projets de découverte du monde. Les qualités de l'un peuvent être désolantes pour l'autre qui les voit comme l'inverse de la gentillesse. S'il m'aimait vraiment, il s'adapterait à moi et se comporterait en conséquence, ce que chacun peut penser. Mais la caractéristique de personnalité appelée amabilité, mais avec cette caractéristique, je reprends ma phrase, désolé. Mais avec la caractéristique de personnalité qu'on appelle amabilité, nous avons affaire à des individus qui sont franchement gentils. Commençons par le pôle négatif de ce continuum où nous retrouvons l'inverse de la gentillesse. Alors, ces gens sont brusques, têtus, querelleurs, sceptiques, compétitifs, colériques, opiniâtres. Ils critiquent les autres. Ils mettent leur intérêt personnel en avant-plan. Ils sont peu soucieux du bien-être des autres et peu enclins à faire des efforts pour eux. Ils se montrent parfois soupçonneux, inamicaux et fermés à toute collaboration. Au contraire, les individus situés sur le côté positif de ce continuum, ceux qu'on appelle là, les aimables, sont très charmants. C'est ici qu'on retrouve les champions de la gentillesse par excellence. Ils sont tolérants, doux, indulgents, agréables, altruistes, flexibles dans leurs opinions, peu enclins à juger les autres et à les critiquer. Ils sont chaleureux, grégaires, modestes, sensibles, compatissants, faciles à vivre, pleins d'égards, amicaux, serviables, généreux, prêts à concilier leurs intérêts avec ceux des autres. Ils sont optimistes sur la nature humaine et ils assument que les gens sont foncièrement honnêtes, fiables et bons. Ils sont désireux d'éviter les conflits et prêts à concilier leurs intérêts avec ceux des autres. Et oui, cela existe des personnes aussi gentilles. Point d'exclamation. Remarquons toutefois que cette caractéristique de la personnalité aimable n'est pas toujours utile dans les situations qui demandent des décisions difficiles. Le trop grand désir de coopération et d'harmonie sociale peut interférer. Sabourin et Lefebvre, en 2008, rapportent qu'en thérapie conjugale, on voit souvent les deux membres d'un couple aux extrêmes de ce continuum. On peut donc extrapoler encore ici que le beau caractère est tiré vers le bas par l'autre conjoint non agréable. Les amoureux très gentils se recrutent donc chez les gens qui sont en bonne santé mentale, qui n'ont pas de troubles de personnalité et qui ont les traits de personnalité suivants. Ils sont foncièrement aimables, consciencieux, extravertis, ouverts aux nouvelles expériences et non névrosés. Autrement dit, pour être un bon amoureux, on est d'abord une bonne personne saine. C'est pourquoi la thérapie est si pertinente pour contrecarrer les aléas de la vie conjugale. Nous croyons fermement au changement. On entend souvent dire que les gens ne changent pas, comme c'est ridicule. Il suffit de regarder des photos de nous prises voilà 10 ou 20 ans pour constater les changements drastiques du passage du temps. Nous sommes tous en perpétuelle évolution, autant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Et nous avons du pouvoir sur cette évolution. On peut sculpter son corps, on peut augmenter son quotient intellectuel, on peut croître sur le plan affectif, on peut améliorer ses capacités relationnelles et on peut mûrir en se frottant à deux dans la vie de couple, au lieu de se laisser miner par nos limites relationnelles. Certaines personnes s'empêchent de consulter un psychologue parce qu'elles craignent d'aboutir à un divorce à cause des consultations. C'est le contraire qui est le plus probable. En effet, si l'intervenant est compétent, il ne formera pas une alliance complaisante avec vous contre votre conjoint. Après avoir établi un climat de confiance avec vous, il cherchera plutôt à vous remettre en question pour vous donner le vrai pouvoir, celui qui consiste à vous positionner plus favorablement dans votre relation amoureuse. Autrement dit, le psychologue vous aidera à exercer votre pouvoir adéquatement tout en devenant de plus en plus gentil. Alors, voilà. Abordons maintenant le dernier chapitre qui s'intitule « À l'ère de l'intelligence émotionnelle ». Depuis quelques décennies, lentement mais fermement, il pointe une nouvelle mentalité. Nous n'acceptons plus d'être traités avec rudesse. Il ne suffit plus d'être bien nanti pour être admiré. Il faut de la gentillesse. Le pouvoir des gens compétents est amoindri s'ils ne sont pas sympathiques. Les politiciens arrogants sont décriés, les hommes d'affaires désagréables sont fuis, les artistes suffisants sont méprisés, les patrons narcissiques sont dénoncés, les conjoints violents sont poursuivis en justice. La vie amoureuse est d'ailleurs plus exigeante que jamais sur le plan de la gentillesse. Un conjoint méprisant est susceptible d'être répudié. La facilité des séparations et des divorces est un baume en ce sens. On ne tolère plus d'être maltraité. Mais nous assistons à une sorte de bataille rangée sur ce thème. D'un côté, ceux qui promeuvent les droits des individus et qui n'acceptent plus l'intolérance, et encore moins le dénigrement des minorités, des marginaux et des victimes de tous ordres, comme les homosexuels, les transgenres, les noirs, les victimes d'abus sexuels, par exemple. Et de l'autre côté, face à ces adeptes de la gentillesse, on retrouve encore de grossiers irrespectueux à la Trump qui sèment l'anxiété et la consternation par leur mépris, leur irrespect et leur violence verbale. Par bonheur, il n'en reste pas moins qu'en trame de fond, une évolution lente mais ferme se manifeste. La société d'humanisme... qu'en trame de fond, une évolution lente mais ferme se manifeste. Deux points, c'est la société qui s'humanise. Comme le rapporte Pinker en 2018, les progrès en ce sens sont spectaculaires en tout point. Par exemple, il n'y a jamais eu si peu d'homicides dans toute l'histoire. Si on entend beaucoup parler de guerre et de violence dans les médias, c'est parce qu'on ne les tolère plus. Bien plus, les journalistes relèvent tous les accros de la gentillesse et les lecteurs s'en offusquent. Nous avons parfois l'impression que les gens ridiculisent la gentillesse en s'imaginant que la bienveillance est l'apanage des gens faibles. Les leaders se recruteraient chez les gens forts qui usent d'une rudesse nécessaire. Pour réussir dans la vie, il faudrait être autoritaire, sévère et insensible. Or, les résultats de recherche en psychologie contredisent cette position. Le best-seller intitulé « L'intelligence émotionnelle » écrit par le psychologue Daniel Goleman en 1994 en témoigne. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont même pas automatiquement les plus intelligents. En général, ce sont plutôt les gens disciplinés qui sont gentils par surcroît. D'ailleurs, la preuve que la gentillesse est l'attitude gagnante dans la vie, deux points, les chercheurs Fribourg en 2018 et 2019, pour qui la gentillesse englobe la gratitude, la mansuétude, l'intégrité, la joie et l'amour, révèlent que les personnes gentilles vivent plus longtemps. D'ailleurs, nous sommes fascinés par l'accumulation des recherches qui établissent un lien entre la santé, la longévité et le bonheur familial. Ainsi, Uchino et Wei, en 2017, rapportent plusieurs recherches allant dans ce sens. Pour le malheur ou pour le pire, écrivent-ils, la qualité de notre vie familiale affecte notre santé physique. Plusieurs recherches en attestent concernant des conditions médicales sévères et chroniques, ce qui met en lumière l'impact des relations intimes sur la santé physique. Des relations interpersonnelles significatives peuvent accroître le taux de survie de 46% chez une personne, selon une méta-analyse. Des recherches démontrent que de telles relations interpersonnelles sont aussi importantes pour abaisser la mortalité, aussi importantes que les marqueurs biomédicaux traditionnels comme la diète, l'absence de nicotine et l'exercice. Il semble en plus que les liens familiaux soient plus efficaces en ce sens que l'amitié. Certaines études démontrent par ailleurs qu'au contraire, des relations sociales négatives empreintes de manque de sensibilité et empreintes de conflits, par exemple, accroissent les problèmes de santé physique et provoquent une mortalité précoce. Il est donc clair que les relations familiales sont en lien direct avec notre état de santé et, d'après nous, ce sont les bonnes attitudes des gens en bonne santé mentale qui sont sous-jacentes aux belles relations familiales. C'est pourquoi l'ambition des psychologues est d'amener leurs clients à dépasser leurs limites personnelles et leurs souffrances en les outillant pour qu'ils actualisent leur potentiel le plus possible. Peut-être que l'énumération suivante des qualités et attitude d'une personne en santé mentale vous intéressera. La psychopathologie est éclairante car elle explore les attitudes, les comportements et les pensée nuisible, ce qui nous permet de tirer des leçons. Mais à quoi ressemble une personne en santé mentale qui fonctionne bien? La réponse ne peut pas se fonder uniquement sur l'absence de psychopathologie. Shedler, en 2010, présente un instrument fiable pour définir la santé mentale à partir de la conception des praticiens de la psychothérapie de toutes les allégeances. Nous donnons ici un aperçu de cet instrument appelé le SWOP-200 qui décrit de façon opérationnelle la santé mentale d'un client. Cet instrument est utilisé en recherche et les réponses aux questions sont données par le clinicien et non par le client lui-même. La personne en bonne santé mentale, 2. Utilise ses talents et son énergie de façon efficace et productive. Prend du plaisir dans les défis et l'accomplissement. Est capable d'entretenir une relation amoureuse significative caractérisée par une intimité authentique. Est empathique et sensible aux besoins et sentiments des autres. S'affirme de façon efficace et appropriée quand c'est nécessaire. Apprécie l'humour et y réagit. Est capable d'entendre de l'information dérangeante émotionnellement et d'en bénéficier, par exemple, les idées contraires aux siennes ou des commentaires remettant en cause la perception d'elle-même. On continue toujours les caractéristiques de la personne en bonne santé mentale. Elle a fait la paix avec son passé douloureux, elle s'exprime de façon articulée sur elle-même, elle entretient une vie sexuelle active et satisfaisante, elle est confortable en présence des gens, elle est satisfaite de ses activités et y trouve du bonheur, elle exprime ses émotions de façon appropriée, en quantité et en qualité selon la situation, elle est capable de reconnaître la valeur de points de vue opposés aux siens, même sur des sujets qu'elle chérit. Elle est créatrice, elle est consciencieuse et responsable, elle est énergique, elle est branchée sur sa communauté, elle est capable de se comprendre et de comprendre les autres de façon subtile et sophistiquée. Elle trouve du sens et de la satisfaction dans la poursuite d'objectifs et d'ambitions à long terme. Elle est capable de former des liens d'amitié proches et durables, caractérisés par du support mutuel et le partage d'expériences. Gentillesse dans le couple, intelligence émotionnelle, santé mentale, tout cela va ensemble. Alors, c'est la dernière phrase du livre qui s'intitule « La gentillesse dans le couple ». Je vais la répéter. Le livre se termine avec cette phrase. « Gentillesse dans le couple ». Intelligence émotionnelle, santé mentale, tout cela va ensemble. Alors donc, c'était l'épisode d'aujourd'hui sur... C'était psycho-balado, désolé d'être un petit peu perdu là. Je suis en train de me dire, bon ben c'est la fin de ce livre-là. Alors j'entreprendrai probablement... dans 2 semaines, un autre livre que j'ai écrit. Alors, c'était Psycho Balado en ce 16 juin 2023 avec Yves Dalpé, psychologue. Vous pouvez visiter mon site Internet pour y voir ce que sont mes services ainsi que mes livres. L'adresse est www.dalpecote.com. Au plaisir de se retrouver.